RCF.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle. Être accompagné spirituellement pour vivre les différents domaines de sa vie dans la foi et avancer peut-être un peu plus vers la sainteté, eh bien c'est un désir de nombreuses personnes, une habitude dans l'Église depuis des siècles. Mais accompagner une personne, eh bien ne s'improvise pas forcément. Pour certains, c'est un art ou un apprentissage de l'écoute et du discernement. Alors avec les récents scandales de l'Église, les abus qui ont éclaté, comment permettre un accompagnement ajusté? Comment apprendre la juste écoute? On en parle avec mes invités du jour. Marie-Caroline Bustaré, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue Christus, oui. Revue jésuite, et vous avez sorti en janvier voilà, le numéro 265 de Christus qui s'intitule avec le dossier pour un accompagnement sans emprise.
Tout à fait.
On va reparler de certains aspects justement de l'accompagnement avec vous. Père Bernard Pitot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et vous êtes historien de la spiritualité. On va redonner un petit peu un cadre avec vous aussi à cet accompagnement spirituel. Et avec nous enfin Paul-Hervé Vintroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes accompagnateur spirituel, missionné par les fraternités monastiques de Jérusalem et vous êtes l'auteur du livre Manuel de l'accompagnant spirituel qui vient de paraître aux éditions Salvator.
Oui, exactement.
Alors l'accompagnement spirituel, apprendre la juste écoute, on en parle dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
L'accompagnement spirituel, alors c'est une grande question. Beaucoup se demandent quelle est un peu la différence entre un accompagnement spirituel, un accompagnement psychologique. Alors je me tourne vers vous, Père Bernard Pitot. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les deux grandes différences, on va dire, de ces accompagnements.
D'abord, quand on reçoit une personne, c'est justement une personne que l'on reçoit. C'est-à-dire, c'est pas un composé de psychologique, de spirituel, c'est une personne. Et une personne, elle a une histoire qu'elle va nous raconter, elle vit des événements qu'elle va nous raconter. Alors, le rôle de l'accompagnateur spirituel va être d'abord d'aider cette personne à comprendre la manière dont Dieu se ferait un chemin dans sa vie, et la manière dont elle-même avance spirituellement, c'est-à-dire découvre le Seigneur de plus en plus, la manière aussi dont elle se donne de plus en plus à ses sœurs et à ses frères. C'est d'abord ça, à quoi l'accompagnateur spirituel va être attentif. Après ça, évidemment, il peut repérer dans l'histoire que lui raconte cette personne, il peut repérer des dimensions psychologiques qui peuvent être classiques, normales, j'allais dire, habituelles, enfin, sans problème particulier. Il peut aussi parfois repérer d'autres problèmes un peu plus délicats, mais il ne va pas chercher à traiter cela, ça c'est sûr. Et parce que ce n'est pas sa compétence. Tout accompagnement, je pense, suppose une compétence, mais l'accompagnement psychologique en suppose une quand même assez particulière.
D'autant plus que la psychologie a beaucoup évolué. On a eu tendance à dire, il y a peut-être 40 ou 50 ans, que les prêtres étaient un peu les psychologues du quartier.
Oui,
mais ça a beaucoup bougé.
Oui, et puis il y a aussi un danger, je crois, aujourd'hui, avec le fait de la vulgarisation de la psychologie. C'est-à-dire, à force de lire des revues d'ordre psychologique qui vulgarisent les connaissances en ce domaine, on peut finir par se croire compétent en psychologie. Or, il faut quand même faire très attention à ça, je trouve.
Par la V20 trou.
Oui, oui. Normalement, dans l'accompagnement psychologique, c'est davantage pour soigner. Et le plus souvent, c'est une question pourquoi en regardant hier. Dans l'accompagnement spirituel, on est aujourd'hui et comment je vais vivre cet événement avec Dieu, en Dieu et par Dieu. C'est oui. beaucoup plus dans l'instant.
L'aujourd'hui, c'est quelque chose de très chrétien. C'est vraiment être dans la présence, reconnaître la présence de Dieu. Ce que vous disiez, Père, se frayer, comment Dieu se fraye un chemin dans notre vie.
Il ne faut pas négliger le passé non plus, hein, parce que l'histoire marque les personnes, évidemment. Mmh. Hein, et donc, que les gens qui commencent un accompagnement spirituel puissent raconter leur histoire. Oui. À mon avis, c'est assez fondamental, en sachant d'ailleurs qu'il y a des choses auxquelles elles ne seront pas nécessairement attentives tout de suite, mais qui leur reviendront au fur et à mesure qu'ils avancent. Hein.
Alors, est-ce que, justement, tout le monde peut être un accompagnateur? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de perspi, on se tourne souvent spontanément vers les prêtres, mais il y a aussi des religieuses, il y a aussi des laïcs qui se forment. Voilà, est-ce qu'il y a une formation particulière? D'ailleurs, comment l'Église, aujourd'hui, se positionne là-dessus? Est-ce qu'elle lance des formations?
Je pense qu'il faut poser comme base que l'accompagnement spirituel n'est pas réservé aux prêtres dans l'Église. Il faut poser ça comme base. D'ailleurs, durant pratiquement toute l'histoire de l'Église, il y a eu des accompagnateurs ou des accompagnatrices qui n'étaient pas prêtres. Hein. Alors, il n'y en a sans doute pas beaucoup. Ils se sont fait un nom, justement, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, je crois. Mais il n'empêche qu'il y a toujours eu des accompagnateurs qui étaient laïcs ou religieux, religieuses. Hein. Mais évidemment, il faut une certaine formation. Hein. Une formation à l'écoute, une formation comme celle qui a eu lieu à Paris.
Il y a une formation, récemment, voilà, il y a quelques jours.
Samedi
une
dernier.
Journée diocésaine.
Tout en sachant que c'est vraiment un début, c'est pour poser quelques bases et que la formation ne se fait pas seulement par enseignement. Hein. Mmh. Et ça me paraît aussi très.
Très
important, c'est pas, mais par la confrontation d'expérience avec quelqu'un qui est plus expérimenté et qui va justement aider à ajuster sa propre attitude, hein, parce que c'est une relation. Donc on est deux, on peut dire qu'on est trois, on le dit souvent parce que il y a aussi le Seigneur qui est là, ou l'Esprit Saint qui est là. Mais enfin, on est aussi deux, quoi, hein. Et donc, entre deux personnes, il y a toujours quelque chose qui se joue dont on n'est pas forcément conscient.
Alors, Marie-Caroline.
Vous avez posé la question, est-ce que tout le monde peut être accompagnateur? Moi, j'aurais tendance à répondre de façon assez directe. Non, tout le monde ne peut pas être accompagnateur. D'une part, bon, il faut se former, ça d'accord, mais même, il faut, je pense, avoir quand même un certain charisme d'écoute, de discrétion dans la relation, que tout le monde n'a pas. Mmh. Et être prêtre ne donne pas d'emblée ce charisme d'écoute. Moi, j'ai rencontré un prêtre qui me disait, en toute humilité et de façon très sincère, moi, je suis pas fait pour écouter. Mmh. C'est un très bon prêtre, un très bon pasteur.
Une bonne lucidité.
Voilà. Mais c'est pas son charisme. Il reconnaissait, donc il envoie les personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur sa paroisse à des accompagnateurs qui ont ce charisme et qui se sont formés. Après, quand on a le charisme d'écoute, se former est nécessaire. Se faire superviser, c'est ce que je suppose que vous visiez quand vous parliez de cette conversation après qui doit perdurer avec des personnes d'expérience est nécessaire. Et pour ça, dans le but de re-questionner en permanence ce charisme que j'ai le charisme d'écoute, mais je re-questionne ça en permanence. Pourquoi je me mets à ce service-là? Pourquoi j'écoute? Enfin, qu'est-ce qui me travaille moi intérieurement dans ce désir-là pour essayer toujours de garder la bonne place?
Oui, c'est ça, parce que on peut. Bon, il y a toujours des méthodes, des techniques, mais comme vous disiez, il y a une relation et cette relation, c'est toujours deux personnes uniques finalement. Donc on peut pas s'asseoir en fait sur un acquis.
En plus,
fait.
Exactement.
C'est toujours en évolution.
Il se trouve qu'on peut avoir des incompatibilités dans l'accompagnement. On peut ne pas être capable d'accompagner certaines personnes. Parce que la personne fait résonner des choses trop fortes en nous, qu'on n'arrive pas à gérer. Et donc, il faut aussi, en tant qu'accompagnateur, être capable de se dire là, je peux pas. Et donc, renoncer pour certaines personnes. Moi, je suis accompagnatrice, je me fais superviser. Il peut m'arriver dans ma supervision que mon accompagnatrice me dise, que ma superviseuse plutôt me dise, devant une difficulté, est-ce que tu penses que tu peux continuer avec cette personne ? Et donc, la question est légitime.
Paul et Hervé Vintrou, vous qui êtes aussi accompagnateur, ça vous est arrivé aussi de vous dire « Aïe, là, je ne sais pas si je vais savoir accompagner, quoi. Est-ce que je renonce ?»
Oui, c'est important d'identifier ça dès le départ, déjà, à la première rencontre. Est-ce que je vais être capable d'aimer inconditionnellement la personne que j'accompagne ? Puisque je vais passer des heures et des heures avec elle. Donc il ne s'agit pas seulement d'être gentil, d'être patient, d'être bienveillant, mais il faut vraiment que je décide de l'aimer. Non pas seulement en tant que sentiment, mais en tant qu'une décision de cette personne, je vais véritablement l'aimer. Et si ce n'est pas le cas, bon, puis on peut effectivement dire, peut-être renvoyer la personne sur quelqu'un d'autre, si on pense que c'est plus pertinent.
Il y a quelque chose que vous avez dit aussi, on envoie une personne en accompagnement, mais aussi l'accompagné doit être lui-même envoyé. Vous, Paul Hervé, vous êtes missionné, envoyé peut-être par les fraternités monastiques de Jérusalem. Cette notion d'envoi, elle est importante. Enfin, pourquoi elle est importante en fait ?
Elle est importante parce qu'on ne s'érige pas soi-même comme accompagnateur. On est envoyé, comme le rappelle la lettre aux Hébreux, hein, dans la relation avec Dieu, c'est important d'être envoyé. Et donc, moi j'ai commencé, parce que j'étais membre d'une fraternité laïque auprès des fraternités monastiques de Jérusalem, je dirais comme accompagnateur catéchumène. Et puis un jour, on m'a demandé de me former, justement, donc là je me suis formé, principalement chez les Ignatiens et à l'association Maurice Giuliani. Donc cette formation ignatienne, mais je la mets au service des personnes que j'accompagne.
Cette notion de l'appel et de l'envoi, Père, c'est une notion vraiment
moi,
de l'Église.
Je voudrais revenir sur ce qu'on disait. Je crois que plus on avance dans l'accompagnement, plus on se rend compte de ses limites. Hein. Et c'est important parce que le fait d'accompagner des gens... ne peut pas mettre si c'est bien vécu. Le fait d'accompagner des gens ne peut pas mettre dans une position de surplomb ou de savoir ou de je sais pas quoi.
Mais ça, c'est le fondement. Quoi. Hein,
parce que j'aime bien cette parole de Gaston de Ranty au XVIIe siècle, qui était un laïc on parlait de direction spirituelle à ce moment-là, n'est-ce pas ? Et pas d'accompagnement, mais bon, qui dirigeait une prieure du Carmel de Beaune, et qui disait c'est un frère qui parle à une sœur du langage du père qui les a fait ses enfants. Je trouve ça assez beau. Hein, c'est un frère qui parle à une sœur du langage du père, qui les a fait ses enfants. Mais aussi, l'accompagnateur reçoit beaucoup parce qu'on voit l'œuvre de Dieu quand même. On la voit si on est un peu éveillé. Hein, on voit quand même quelque chose qui s'accomplit vraiment dans la vie de la personne, qui progresse, qui unifie, qui pacifie, etc. Et donc, ben, je dirais tout bêtement et pas égoïstement, mais l'accompagnateur, il profite aussi de ça. Il admire aussi, il admire l'œuvre de Dieu qui se fait.
Cet éveil, vous en parlez un petit peu dans Christus, il y a... peut-être en reprenant un peu vos mots, est-ce que l'accompagnateur, c'est un peu le grand frère, la grande sœur qui aurait fait un pas de plus, on va dire, sur le chemin de foi et qui est capable du coup de dire, ben moi, peut-être je vois ça de Dieu dans ta vie. Est-ce que l'accompagnement sert à amener l'autre à avoir ce propre éveil sur lui-même? Donc, je ne sais pas, Père ou Marie-Caroline.
Je pense même que c'est ça l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est pas moi en tant qu'accompagnateur qui peut dire à l'autre, je pense que le Seigneur agit comme ça dans ta vie. Moi, en tant qu'accompagnateur, je peux aider l'autre à nommer comment le Seigneur agit dans sa vie. Donc moi, ce que j'ai de plus, entre guillemets, que lui, c'est que je dis recul. C'est-à-dire qu'il me raconte des choses, il me parle au fur et à mesure de nos entretiens. Et moi, je garde la mémoire et la trace parce que je suis dans l'écoute et silencieuse de ce qu'il me dit au fur et à mesure des entretiens, que je vois des choses se dessiner. Donc j'ai d'abord ce recul. Et en plus, logiquement, si je suis formée, j'ai une petite notion de constante dans la vie spirituelle, des choses qui reviennent un petit peu facilement, des choses trappes assez classiques, etc. Donc moi, j'ai cette vigilance-là et je peux aider la personne que j'accompagne à repérer ces choses trappes sans lui dire « Tiens, là, il se passe ça, c'est ça ton problème, parce que si je fais ça, je l'aide pas ». Mais en la faisant venir à la parole, qu'est-ce qui te meut, qu'est-ce qui te fait bouger, qu'est-ce qui te perturbe, qu'est-ce qui te rend triste, qu'est-ce qui te rend joyeux, et toutes ces choses-là vont lui permettre à lui de nommer et de repérer, de voir petit à petit comment sa vie se déroule et comment elle se met en place avec le Seigneur.
Père Bernard.
Je suis entièrement d'accord. Je crois que justement tout l'art est d'essayer de ne pas dire.
C'est très difficile.
Et ça, c'est assez difficile parce que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait jamais rien dire, oui. N'est-ce pas? Il y a aussi une parole qui s'échange. Il est normal que l'accompagnateur intervienne aussi. Mais pourra se faire à certains moments, par exemple sous le mode de l'encouragement, pour rappeler à la personne d'où elle vient et lui faire sentir un petit peu le chemin qu'elle a parcouru, alors qu'elle est en train de se décourager devant ce qu'elle croit être son incapacité. Alors, bien sûr, il y aura là une parole qui va être encourageante, qui va dire des choses. Mais je crois qu'il faut rester très, très discret, comme vous disiez, parce que l'idéal, c'est justement d'amener la personne elle-même à reconnaître dans sa vie la manière dont Dieu y travaille.
Et alors un mot que vous employez aussi tous les deux, c'est le terme de désir. Il n'y a pas d'accompagnement s'il n'y a pas de désir des deux côtés. Alors c'est un désir de quoi en fait, Marie-Caroline ?
Alors moi je dirais qu'il y a un désir de la part de la personne qui demande à être accompagnée, un désir de suivre le Seigneur, de voir comment le Seigneur agit dans sa vie, de mettre d'ordre dans sa vie, d'avoir des réponses à des questions. Voilà, il y a un désir assez multiple, assez multiforme chez la personne qui est accompagnée. Le désir qu'il faut chercher, c'est le désir vraiment de rencontre du Seigneur. Je dirais de façon un petit peu peut-être brutale, après je vais peut-être modérer un peu ce que j'ai dit, qu'il ne devrait pas y avoir de désir chez l'accompagnateur. L'accompagnateur ne devrait n'avoir qu'un seul désir, que la personne en face de lui rencontre le Seigneur, fasse une rencontre personnelle avec le Seigneur et puisse cheminer dans sa vie avec ça.
Je vois que Paul Hervé acquiesce.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est un désir fort, justement.
Voilà. En fait, il y a un désir. Mais
il y a un désir. Voilà. Il y a un désir. C'est vraiment d'aider cette personne à réaliser peu à peu ce qu'elle cherche elle-même, c'est-à-dire davantage d'union avec le Seigneur, une présence plus grande du Seigneur dans sa vie, enfin tout ça. Voilà. Là, il y a quand même un désir.
Comme bien dit Zavilla,
il ne faut pas minimiser nos désirs, n'est-ce pas? Il disait, il ne faut pas minimiser nos désirs. Je crois que ça vaut pour l'accompagner, qui ne doit pas minimiser son désir ou ses désirs, mais ça vaut aussi pour l'accompagnateur. Mais évidemment, il va pas le dire, n'est-ce pas? Mais il va le traduire peut-être dans sa prière, par exemple.
Et peut-être que ces deux désirs qui se rejoignent, peut-être c'est ce qui donne la joie. Vous parlez de la joie aussi dans votre livre, de voir l'autre peut-être s'éveiller et arriver à cette rencontre. C'est ce qui crée la joie de l'accompagnateur, même si c'est pas, vous le faites pas pour ça.
Oui, c'est-à-dire que je reçois tellement, même si c'est discret, mais je reçois tellement à travers ce que me donnent les personnes accompagnées. Et donc moi, ça m'aide dans ma réflexion personnelle. Donc je ne le fais pas pour ça, mais il y a un bénéfice, je dirais, collatéral ou secondaire, qui est la joie reçue de voir les personnes s'éveiller et rentrer davantage en relation intime et en profondeur avec Jésus-Christ.
Alors, pour rentrer dans ce désir et peut-être faire progresser, enfin aider l'autre à avancer, on va dire plutôt, il y a quand même cette écoute. Alors, on va parler un petit peu de l'écoute et puis peut-être des postures aussi que l'accompagnateur peut avoir pour être bien ajusté. On va en parler dans quelques instants. On se retrouve, vous êtes sur RCF dans Grand Angle.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est. Chaque jour, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde.
Christ est la lumière, c'est Matt Marvan, c'est un titre de son album Résistance.
RCF, Faustine Fayette.
Nous parlons de l'accompagnement spirituel aujourd'hui, peut-être comment avoir un accompagnement ajusté, comment apprendre l'écoute aussi, ce qui n'est pas forcément évident ou pas une évidence pour tout le monde. Et on en parle aujourd'hui avec mes trois invités, Marie-Caroline Bustaré, rédactrice en chef adjointe de la revue Christus, qui évoque ce thème de l'accompagnement pour un accompagnement sans emprise dans le numéro de janvier, le père Bernard Pitot, prêtre de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, et puis Paul Hervé Vintrou, accompagnateur spirituel. Paul Hervé, je me tourne vers vous parce que vous sortez un livre, Manuel de l'accompagnant spirituel. Alors, le cœur de la posture, on a beaucoup parlé de peut-être c'est important d'être envoyé pour être ajusté. Voilà comment ne pas prendre trop de place, être dans l'écoute silencieuse. Quels sont les essentiels de la posture de l'accompagnant pour être quand même assez ajusté?
Peut-être la première image qui me vient là à l'esprit à l'instant, c'est l'accompagnement spirituel, c'est comme le vélo. C'est-à-dire, si je fixe le guidon, je vais dans le mur. Au contraire, si je lâche les mains, et si je lève les yeux vers Dieu, voilà, et si je sais que c'est lui qui fera tout in fine, ça va fonctionner. Donc ça veut dire que sans la grâce, il n'y a pas de posture d'accompagnement spirituel possible. Alors ensuite, on va être dans les techniques, mais c'est quand même ce principe de base, ou ce que disait tout à l'heure aussi le père Pito, c'est bien ne pas oublier qu'on est trois. C'est-à-dire que je prépare la réunion, je mène l'entretien comme si tout dépendait de moi, mais en fait, je sais bien que c'est lui, le Seigneur, qui fera tout.
Il faut avoir une sacrée foi quand même.
Voilà, et de l'humilité. Donc savoir effectivement voilà, que je suis là et ce n'est pas moi qui vais pouvoir donc bien être enraciné dans une posture humble. Et ensuite, sur l'écoute, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire sur les techniques d'écoute.
Sur l'écoute, oui, justement.
Peut-être une chose importante, c'est-à-dire que accompagner, c'est plus écouter que parler déjà. Hein, on a parlé tout à l'heure, il y a des choses à dire. Hein, on l'a mentionné juste auparavant, mais il y a des choses à écouter et à être silencieux, c'est-à-dire que vraiment laisser à l'accompagner le temps de découvrir lui-même et surtout un espace suffisant pour que l'Esprit Saint puisse venir dans cet espace-temps. Et donc, si on est uniquement dans la parole, dans le questionnement, il n'y aura pas cet interstice dans lequel le Seigneur pourra venir. Et ensuite, peut-être une chose différente par rapport à ce qu'on entend sur l'écoute. Personnellement, je suis très attentif aussi au non-verbal de la personne que j'accompagne, hein, puisque elle dit des choses d'elle-même et même de son intériorité dans sa manière de se comporter. Et donc, je crois que l'attention à la globalité de la personne, de cette personne qui est unique, hein, c'est-à-dire que l'accompagnement spirituel, c'est pas du prêt-à-porter, c'est vraiment du sur-mesure. Je n'applique pas des techniques, je suis totalement lié avec cette personne-là. Et le regard aussi me semble très très important. Je la regarde. Je crois que c'est Richard de Saint-Victor qui dit voilà, là où est l'œil, il y a l'amour. Hein, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai l'œil et donc l'amour se met dans l'œil, dans mon regard. Et donc mon travail va être de regarder la personne que j'accompagne avec beaucoup d'amour. Donc de pas beaucoup réfléchir à ce que je vais dire, mais de la regarder avec amour.
Et d'ailleurs aussi de peut-être d'être sensible à ces silences ou ces non-silences peut-être aussi de tout ce qui se dit et puis et ce qui n'arrive plus à se dire peut-être.
Exactement. Et donc en aucun cas n'être choquable. C'est-à-dire que j'entends même les plus grandes horreurs qui peuvent m'être dites, mais je suis là dans un silence ou dans un regard respectueux vis-à-vis de la personne qui me fait cette confiance de partager quelque chose qu'elle n'a peut-être pas dit ailleurs. Donc c'est pour ça que une des règles, c'est bien sûr la confidentialité absolue pour que tout puisse se dire, quelque chose qu'elle n'a peut-être encore jamais dite à personne.
Il y a une chose aussi qui m'interpelle, c'est je me dis finalement quelqu'un qui vient voir, on a toujours pour être accompagné. C'est vrai qu'on a tous toujours envie d'être un peu conseillé en fait, de pas que quelqu'un nous dise quoi faire. Quand on se dit je veux suivre la volonté de Dieu, on se dit j'aimerais bien connaître la volonté de Dieu sur ma vie et puis ça serait tellement plus simple. Ouais. J'aurais pas de décision à prendre, c'est hop, Dieu me dit ce qu'il faut faire et voilà. Donc est-ce que ça fait partie des choses parfois peut-être à recadrer quand l'autre vient chercher plus du conseil?
Ouais. C'est une tentation, effectivement, de donner du conseil. Donc, mais je dirais qu'au cours de la première rencontre, on a expliqué à la personne qu'on n'était pas là pour lui donner du conseil. Mais il y a aussi des personnes qui viennent chercher un assentiment sur ce qu'elles sont en train de décider. Donc, elles aimeraient bien qu'on leur dise « Ah oui, c'est bien ce que vous faites. » Donc, on n'est pas là pour cela. On n'est pas là pour leur donner même quelque chose de difficile, pour leur donner un mot de complaisance. Et il y a quelque chose qui ne va pas. On peut aussi leur faire remarquer que quelque chose, peut-être, ne va pas.
Père Bernard.
Oui, au mot écouter, j'ajouterais le mot entendre.
Oui.
Parce que on écoute, mais qu'est-ce qu'on entend ? Hein ? C'est pas sûr qu'on puisse tout entendre et qu'on entende tout ce qui est dit. Parfois, ça m'est arrivé de me dire comment ça se fait que j'ai pas entendu cette détresse, par exemple, ou cette difficulté, ou ça. Bon. Alors, si j'ai pas entendu, c'est sans doute que quelque chose en moi faisait obstacle à ce que j'entende. Hein. Et donc, ce qui est intéressant pour l'accompagnateur, c'est et là où il peut, justement, c'est son propre chemin sur lequel il va progresser, c'est que l'accompagnement va lui permettre de détecter peut-être ce qu'il a tendance à ne pas entendre, c'est-à-dire les obstacles qui sont en nous, ces sortes d'auto-censure, n'est-ce pas, qui existent de par notre propre histoire, d'ailleurs.
Oui, nos filtres personnels.
Et qui font que, des choses là, on, bien sûr, ça va résonner, mais voilà, ça va passer. On va pas y prêter attention, si vous voulez. Ça me paraît quand même très très important. Et puis alors, je dirais sur la question dont on vient de parler, là, les gens qui viennent pour avoir
un conseil, on
voit beaucoup de gens, soit pour avoir une justification de ce qu'ils vivent ou une approbation, voilà. Alors ils nous demandent des choses. Et ce que je rencontre aussi parfois, c'est que chez un certain nombre de personnes, ils vont spontanément penser que nous savons mieux qu'eux, n'est-ce pas, ce qu'ils ont à faire ou ce à quoi Dieu les appelle. Alors ça, c'est si l'accompagnateur marche là-dedans, si je puis dire, eh bien, ça c'est la porte ouverte à l'emprise. Hein. C'est la première porte ouverte à l'emprise.
Ouais, parce que l'attente n'est pas, pas juste, en fait.
Ben, parce que l'attente n'est pas forcément juste. Et si, de son côté, l'accompagnateur est tenté par cette position, cette posture de « oui, ben, je vais lui dire ce qu'il y a à faire, quoi ». Hein, voilà. Eh bien, évidemment, il va rentrer dans un... Dans un type de relation où il a justement emprise sur l'autre.
Ouais. Justement, vous parlez de l'emprise dans Christus. Il y a deux choses. Il y a aussi, je voudrais revenir par rapport à l'écoute. Il y a un article qui parle de Jésus accompagnateur. Est-ce qu'il y a une écoute particulière de Jésus? Qu'est-ce qu'on tire des évangiles? Est-ce qu'on a des petites choses qui nous orientent par rapport à l'attitude de Jésus?
Alors, l'article Jésus accompagnateur, le titre est avec un point d'interrogation, parce que parler de Jésus accompagnateur, c'est presque aller un peu loin, et en même temps, c'est d'une certaine façon, c'est légitime. On trouve chez Jésus, en fait, une image, un type de compagnonnage spirituel ou d'entrée dans la conversation spirituelle ou un type d'entrée en relation, qui, en effet, est une aide. Une aide pour l'accompagnateur, savoir comment se positionner. Mais ce qu'il faut, il faut quand même rappeler que la figure de Christ dans l'accompagnement, c'est la figure de celui qu'on cherche à rencontrer et qu'on cherche. C'est l'accompagnateur doit pointer vers le Christ. Et on parlait d'emprise là. L'emprise vient aussi quand l'accompagnateur dit le Christ c'est moi, ou alors moi je sais que le Christ te dit ça, ou voilà, écoute-moi parce que moi je parle au nom du Christ. Là on arrive sur des terrains glissants exactement. Alors pour revenir à la figure du Christ, quasiment, enfin toute sa façon d'être, d'entrer en relation. Dans une très grande ouverture, dans une forme d'hospitalité à ce qui vient, dans un respect de l'autre, tout ça, ce sont des chemins à suivre pour l'accompagnateur. Après, on peut pointer quelques petites choses. Récemment, j'ai relisé le texte, c'était chez Saint Marc, où l'homme riche vient se présenter à Jésus en lui disant « Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et la réaction instinctive de Jésus, c'est de dire « il n'y a de bon que Dieu seul ». Et en relisant ça, à la lumière de toutes ces histoires d'accompagnement d'emprise, je me disais « tiens, là, Jésus resitue les choses de façon très claire et veut garder cet homme à distance, peut-être qu'il sent chez cet homme un désir de se fabriquer une idole ». Et donc, il le rappelle qu'il faut viser le Très-Haut et donc il réoriente le regard de l'homme vers Dieu. Vous voyez, ça, c'est ce genre d'attitude-là qui serait une attitude qu'on peut, nous, en tant qu'accompagnateurs, essayer essayer de mettre en œuvre. Ou alors, dans l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, les pèlerins sont en train de quitter Jérusalem dans le désespoir absolu. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé et ils sont vraiment, vraiment dans la détresse. Et Jésus arrive sur leur chemin, les laisse parler, les écoute, accepte de les suivre alors qu'ils partent de Jérusalem, donc qui est le lieu du salut, et bon, c'est la ville sainte. Il accepte de les suivre dans ses chemins s'éloignant de Jérusalem, il les écoute, et une fois qu'il a entendu leur histoire, il leur rappelle ce qui s'est passé. Donc ils remémorent l'histoire, et puis en éclairant ce qui s'est passé à la lumière de toute l'histoire sainte. Vous voyez, là il y a un travail aussi d'accompagnateur, d'écoute, accompagner les personnes sur son chemin, dans la direction qu'elle prend. Peut-être que c'est pas la bonne, mais pourtant c'est la direction qu'elle prend, donc aller jusque là. Vous voyez, donc il y a des attitudes comme ça qu'on peut reprendre. Dans cette histoire des pèlerins d'Emmaüs, ce que je voudrais juste noter, c'est que une fois que les pèlerins que Jésus est parti là après la bénédiction du pain, les pèlerins disent: est-ce que notre cœur n'était-il pas brûlant? Ça, c'est l'expression d'une émotion, d'un mouvement intérieur qu'ils ont senti et nommé. Et en accompagnement spirituel, c'est ça qu'on peut chercher en tant qu'accompagnateur, ou aider la personne à chercher: qu'est-ce qui en toi est de ce cœur brûlant? Qu'est-ce qui en toi résonne de façon vive comme cette flamme là qui brûle? Ou alors qu'est-ce qui en toi est détresse ou souffrance? Et ce sont ces points-là qui sont des appuis pour comprendre comment ma vie, comment le Seigneur agit en moi dans ma vie.
Ça, je rebondis par rapport à ce que vous disiez, notamment sur ce que la réponse de Jésus: il n'y a de bon Dieu seul. Paul Hervé, dans les postures que vous évoquez dans votre livre, il y a deux choses, ça me rappelle deux choses, c'est ne pas oublier de nommer Dieu, et aussi de revenir constamment à la parole de Dieu. Ça fait partie des choses qui permettent peut-être aussi de bien donner le cadre et de bien orienter l'accompagnement.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'offres d'accompagnement spirituel, entre guillemets, mais qui parle seulement du souffle, de l'esprit divin, de la lumière. Alors bien sûr, le Seigneur Dieu, le mien peut être tout cela, mais en tout cas, je crois que c'est important de nommer très précisément Dieu en tant que Père, Dieu Jésus-Christ, Dieu Esprit-Saint. Et donc, je dirais, il y a une mise en garde peut-être par rapport à cette tendance de vouloir ne pas systématiquement nommer les choses. Alors, l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire: ah oui, le mot Dieu ou Christ est galvaudé, vous pouvez remplacer le mot Christ par un autre mot. Non, attention, là. En tout cas,
on
pour moi.
On est vraiment dans un cadre.
Pas du tout, hein, voilà. Oui. Pas du tout. Donc, ça, c'était votre première question, là.
Et la deuxième. Revenir à la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu. Oui, bien sûr, beaucoup donner, c'est un travail important, un rôle important de l'accompagnateur, de proposer des textes dans lesquels les personnes que nous accompagnons vont avoir du goût. Et c'est important aussi de relire, hein, de relire ce qui s'est passé, de faire relire aux personnes que nous accompagnons comment elles ont vécu leur oraison, comment elles ont vécu leur lectio divina, comment elles ont vécu leur relation à Jésus-Christ. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me gênait un petit peu au début, parce que j'avais peur d'être intrusif dans quelque chose d'assez intime, mais d'aider la personne à nommer ce qui se passe dans leur prière est quelque chose qui leur fait prendre conscience d'un certain nombre de choses.
Comment on instaure un climat de confiance quand on parle de ces choses peut-être si intimes?
Climat de confiance, c'est toute une attitude depuis le début de la relation. Je crois que c'est le respect, que la personne elle se sente respectée totalement dans ce qu'elle écoute, dans ce qu'elle est totalement unique. J'imagine, vous voyez, je pense là à la relation de l'abbé Huvelin avec Charles de Foucault. Et un jour, Charles, qui veut quitter la trappe, lui a écrit pour lui demander comment un peu avancer. Et l'abbé Huvelin, qui était contre, qui avait un autre projet pour Charles de Foucault, Et bien finalement, elle lui dit « Ah oui, c'est oui, j'avais un autre projet, mais je renonce. » Donc c'est ça, respecter la liberté, la décision, le discernement de la personne que nous accompagnons.
Ça veut dire respecter aussi les choix, même si on les trouve pas forcément... si on peut... c'est un mauvais chemin. Alors peut-être Père Bernard, oui, si vous aviez une réaction là-dessus.
Ben, moi, je voulais revenir à l'Écriture parce que ce qui me frappe moi, dans l'Évangile, c'est que l'attitude de Jésus n'est jamais stéréotypée. Hein. Par exemple, dans le récit de la Samaritaine, il s'engage tout un moment sur le thème de l'eau vive, n'est-ce pas ? Mais il y a un malentendu, n'est-ce pas ? C'est un dialogue de sourds qui s'instaure. Alors, je sais bien que ce sont des récits reconstruits, etc. Mais enfin, ça dit quelque chose de la manière aussi dont ceux qui ont écrit le récit, l'idée qu'ils se faisaient de Jésus. Hein ? Et puis, tout d'un coup, Jésus déplace, va chercher ton mari.
Il sort de la conversation.
Elle est déplacée et là, c'est pour dire que même s'il reste vrai tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'écoute, sur le respect de la personne, il peut y avoir parfois, lorsque la confiance justement est établie, hein, vraiment, un déplacement. Avez-vous pensé à ça ? Ah tiens. Et que penseriez-vous de qui va permettre à la personne tout d'un coup de faire un pas et de modifier un petit peu le paysage dans lequel elle va la faire avancer. Autrement dit, il y a aussi une liberté de l'accompagnateur, je trouve, qui est celle même de l'Esprit Saint en lui aussi. Voyez, mais il faut manier ça avec beaucoup de prudence parce qu'il ne faut pas se prendre pour l'Esprit Saint. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ça la difficulté. Hein.
Être bien à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, une parole avant qu'on écoute quelques notes de musique.
Ok, moi je voulais juste revenir sur la référence à la parole de Dieu, donc proposer des textes, etc. C'est en effet quelque chose qu'on peut faire. Et je me dis, il faut aussi avoir une prudence avec ça. Parce que si je peux aussi instrumentaliser la parole de Dieu dans la proposition d'accompagnement, la proposer avec une certaine direction, et il peut y avoir un risque aussi que je pollue finalement la parole de Dieu avec mes intentions à moi qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc il faut se méfier de ça.
Être bien prudent. Oui. Nous parlons de l'accompagnement spirituel. On se retrouve dans quelques minutes sur RCF. C'est Hillsong, la version en français. Nous parlons de l'accompagnement spirituel. Vous êtes sur RCF.
Grand angle, Faustine Fayette.
Un vin nouveau, c'est peut-être ce qu'on peut souhaiter aux personnes qui viennent demander un accompagnement spirituel, c'est que jaillisse peut-être en elles un vin nouveau. On en parle aujourd'hui avec Marie-Caroline Bustaré, rédactrice en chef adjointe de la revue Christus, qui évoque le thème « Pour un accompagnement sans emprise » dans le dossier du numéro de janvier. Le père Bernard Pitot, prêtre de Saint-Sulpice, historien de la spiritualité, et Paul-Hervé Vintroux, accompagnateur spirituel. On a évoqué l'écoute, l'importance de cette écoute, la prudence aussi à avoir, voilà, par rapport à des postures, des attitudes, se laisser guider par l'Esprit Saint. Je voudrais revenir sur est-ce qu'il y a des signes, justement, alors je pense à un petit signe peut-être qu'on a évoqué tout à l'heure sur quand on écoute, mais qu'il y a des choses qu'on n'a pas entendues. Ça, c'est peut-être un signe que, à un moment, on a loupé quelque chose dans l'accompagnement. Est-ce que Paul Hervé, vous pensez à d'autres signes qui feraient dire ah ben tiens, là, je suis pas ajustée, je suis pas à la bonne place dans mon entretien avec la personne que j'accompagne. Mmh. Ça peut être à l'inverse, l'autre, celui qui vient demander un accompagnement. Comment je recadre en tout cas le terme l'entretien.
Déjà, on ne le voit pas systématiquement sur l'instant. Moi, je le vois surtout à la fin de l'entretien, où je me dis, tiens, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Donc, je prends mes notes après, une fois que la personne est partie. Je crois que c'est important. Moi, je me recueille, je fais appel à mes mémoires spirituelles, je note les points importants, les choses que la personne a pu me dire, ce que j'ai pu, moi, signaler. Et ensuite, il y a tout un travail de relecture que je vais faire avec la personne qui me supervise.
Donc ouais, c'est à ce moment-là. Donc, vous êtes donc tous c'est vraiment là-dessus, l'éclairage. C'est vraiment
donc ça, c'est un point très important, ouais. de regarder tout ce qui s'est passé. À l'inverse aussi, je veux être vigilant, même si quelque chose de ce que dit la personne ne me plaît pas. Maurice Bellet, par exemple, disait à un moment, mais même le délire mérite d'être écouté. Ce que moi, je peux penser être du délire, c'est peut-être une parole formée, pas du délire ailleurs, pour la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai un éclairage qui va m'être donné par quelqu'un d'autre. Et toujours garder cette posture humble par rapport à ce qui s'est passé.
Dans Christus, vous publiez un extrait d'Adrien Candiar qui s'exprime à la Coref, je crois, et ça s'intitule « Le sanctuaire de la conscience ». Alors, il reprend une expression, hein, je crois, qui fait référence à une expression de l'abus de confiance dont le pape François avait parlé. Ce sanctuaire de la conscience, c'est vraiment être vigilant pour éviter l'emprise, en fait.
Oui, tout à fait. C'est une expression qui est très forte et qui dit de façon ferme qu'il y a un domaine auquel je n'ai pas accès et que ce domaine, seul Dieu y a accès et que la conscience, c'est le lieu peut-être où Dieu parle à l'homme, à l'autre. Moi, je ne peux pas. C'est la Terre Sainte autour du buisson ardent où il faut se déchausser.
C'est une belle image.
Ouais. Et donc, y a en effet une vigilance extrêmement grande à avoir parce qu'on peut violer cette conscience.
Bernard.
Oui, ben oui, je dirais la même chose avec d'autres mots peut-être, mais en effet, je crois aussi qu'il faut respecter le temps de la personne. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne se disent que longtemps après le premier entretien. Et ça n'est pas forcément parce que la personne a envie de le cacher. Mais c'est souvent parce qu'elle n'a pas pris conscience avant de l'importance de cette chose dont elle va parler dans sa vie. Et puis un jour, grâce à notre écoute, à l'écoute de l'accompagnateur et à sa patience, ça va venir, mais ça va venir librement, volontairement, sans pression, hein, et sans que l'accompagnateur ait l'impression de faire une extraction à force, quoi. Hein, ça ne va pas, voyez-vous.
La patience, c'est la grande vertu du. Que doit acquérir.
Je ne sais pas si c'est la grande vertu, mais enfin, un accompagnateur qui serait trop impatient nature, ou qui en tout cas n'arriverait pas à masquer son impatience, non seulement à la masquer, mais à la réduire vraiment, parce que quand on la masque, elle paraît de toute façon.
Mais, il y a du non-verbal, comme dirait Paul Hervé.
mais à vraiment se mettre en paix avec lui-même. Mm-hmm. Par rapport à ce qui lui est dit. Mmh. Et on n'est pas pressé, quoi. On n'est pas pressé. Hein. Et on sait bien que le travail de Dieu, d'ailleurs, il n'y a qu'à nous regarder nous-mêmes pour se rendre compte que le travail de Dieu est lent. Alors pourquoi ça ne serait pas aussi pour les autres?
Hein. Marie-Caroline.
L'accompagnateur ne doit pas précéder la personne qui l'accompagne.
Oui. Mmh.
Pour revenir à cette question de signaux qui peuvent dire qu'on n'est pas à la bonne place, je crois qu'il y en a beaucoup et peut-être qu'ils sont un peu singuliers, enfin propres à chaque personne. Il peut y aussi, moi ça m'est arrivé personnellement de sentir quand j'étais plus à ma place, quand j'avais, alors selon les personnes que j'accompagne, mais certaines personnes qui ont l'intelligence de ce que c'est que la relation d'accompagnement me renvoie à moi-même. Et alors inconsciemment, mais par certaines réactions, et me font sentir que je suis plus à ma place, que là j'ai outrepassé la parole. Donc parfois cette relation se joue comme ça, donc ça c'est très bien. Et puis après aussi en tant qu'accompagnateur, on peut si on essaie d'être honnête, sentir les moments où on n'est pas très à l'aise, où on s'est dit
quand on n'est pas à l'aise.
Oui, là c'était là en effet, c'est ce que vous disiez. Non, j'aurais peut-être pas. Je suis peut-être allée trop loin. Ou je suis pas. On sort avec un sentiment un peu de malaise et parfois c'est un signe qu'il y a quelque chose de qui n'était pas ajusté.
Ça reste très inconscient. Un des moyens aussi, c'est d'ouvrir la porte du départ à la personne que nous accompagnons.
Eh oui.
Hein, par exemple, moi, régulièrement au mois de juin, au lieu de prendre rendez-vous, je ne prends pas rendez-vous pour la rentrée, mais je propose à la personne de dire, tiens, rappelez-moi à la rentrée si vous pensez que c'est encore opportun que vous fassiez accompagner. Enfin, j'enrobe un peu dans ce style-là, pour
justement,
laisser la porte ouverte.
Comment on termine quand vous sentez qu'un accompagnement, vous êtes allé au bout de ce qu'en tout cas peut-être vous pouviez apporter. Comment on termine un accompagnement, Marie-Caroline?
Je crois que pour bien le terminer, il faut bien le commencer. Pour bien le commencer, il faut poser le cadre au départ, qui est très clair, qui est en effet, on n'est pas engagé pour la vie. Donc moi, quand je reçois une personne pour la première fois, je lui dis, on se donne l'année. Et puis on revisitera en fin d'année la situation. Si vous avez pas envie de continuer avec moi, vous êtes tout à fait libre. Et peut-être que moi, je pourrais sentir que c'est difficile et qu'il faut arrêter. Alors à la fin d'année, je le reformule pas de façon aussi claire, mais je fais exactement comme vous, c'est-à-dire que on ne reprend pas date pour le mois de septembre quand on s'est vu pour la dernière fois en juillet. Je dis à la personne, c'est l'été, on prend des vacances, rappelez-moi à la rentrée. Comme vous voulez, et en effet, ça laisse une porte de sortie. Après, il faut, en tant qu'accompagnateur, si on a, comme je disais tout à l'heure, si on a des limites ou qu'on les sent, être capable de le dire. Et aussi être capable d'entendre quand la personne n'a pas envie de continuer. J'ai entendu des personnes qui me disaient, mon accompagnateur, quand je lui ai dit que je voulais arrêter, il s'est mis en colère. Ou, vous voyez, là, c'est problématique. C'est dire qu'il y a, là, c'est un signal qu'il fallait arrêter, en effet. Donc, il faut être capable de le prendre de façon très tranquille, très apaisée. Si c'est pas avec moi que le chemin doit se faire, c'est avec quelqu'un d'autre. Et je suis très heureuse que la personne soit suffisamment libre pour pouvoir le poser et le dire.
C'est l'humilité dont parlait Paul Hervé, que vous avez un peu tous évoqué. Comme on touche à la fin de l'émission, je voudrais vous demander à chacun quelles sont peut-être les figures d'accompagnateurs. Alors, ça peut être des personnages bibliques qui vous parlent, qui vous accompagnent aussi peut-être, Paul Hervé.
Moi, Ignace, parce que c'est voir, chercher et voir Dieu dans toutes choses, et donc dans toutes les petites choses de la vie, les petits moments de la vie. Et donc, que j'aille chez le coiffeur, que j'achète quelque chose sur Internet, que j'aille au cinéma avec quelqu'un, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Tout moment est une occasion de le vivre avec le Seigneur, de le vivre par Jésus-Christ, de le vivre en l'Esprit-Saint.
C'est vraiment la leçon de Saint Ignace. Père Bernard.
Moi, je vais plutôt chercher du côté du XVIIe siècle, même si, vous savez, il y a moins de différence qu'on imagine dans les manières d'accompagner au long des siècles. Beaucoup moins, beaucoup moins.
Alors, XVIIe siècle, mais, c'est François de Sales.
Mais je vais plus chercher du côté de Jean-Jacques Ollier, de Gaston de Ranty, que je citais tout à l'heure. De Jean-Jacques Ollier, qui disait... dont on disait il écoutait tout et remarquait les grands effets de grâce qui se produisaient dans cette âme.
Et bien on va terminer sur cette phrase, l'accompagnement spirituel, apprendre la juste écoute. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site rcf.fr.